demo, folks.
Salut.
Salut. Salut.
C'est Champ Libre. Amis du cinéma, de la musique et des mots écrits sur du papier, bonsoir. C'est Champ Libre. Numéro 534 sur les ondes de Couleur FM. Ce soir, Champ Libre mensuel. Champ Libre mensuel, ça signifie invité. Par ordre chronologique, hein. Attention, par ordre chronologique, Jo et son cinéma.
Bonsoir.
Carole et son...
j'allais dire
son
disque.
Cinéma aussi, mais...
Oui, en quelque
sorte. Sa musicale, son petit cinéma, elle.
Bonsoir.
Damien... qui nous parlera de...
Heavy Metal.
Heavy Metal aujourd'hui.
Bonsoir.
Et Laurent est toujours à la technique. Donc c'est celui que vous n'entendez pas, parce qu'il est... En fait, il est muet. Il a grandes oreilles, mais il est muet. On commence tout de suite ce Champ Libre avec un titre d'un album d'un groupe qui s'appelle Bass Drum of Death. Alors c'est un groupe américain. À l'origine, c'est un gars qui jouait basse batterie. Donc, vous savez, les Black Keys, c'est guitare-batterie. Lui, il s'était dit, pourquoi pas basse-batterie. Puis, de fil en aiguille, il a rajouté quand même deux ou trois musiciens afin d'étoffer un petit peu le son. Alors, je ne sais pas comment on peut qualifier cette musique. Damien nous le dira plus tard. En tout cas, ils en sont à leur troisième album. Ils ont, paraît-il, assuré pas mal de premières parties. Pas mal de premières parties dans les festivals de l'été. Et leur nouvel album s'appelle Rip This. Je suppose que c'est une incitation à pirater leur disque. Voilà, en tout cas, j'ai écouté le disque. Voilà, ça doit être bien sur scène. Bass Drum of Death est le titre. Carole ?
Everything's the same.
C'est bien.
Merci.
Tu suis.
Tout à fait.
What?
Bass Drum of Death, belle pochette de Biker avec écrit Bass Drum of Death dans le dos du blouson. Alors, bon, puisque mes co-animateurs ne peuvent pas dire quel type de musique exactement, de quel type de musique il s'agit, c'est moi qui le dis, c'est du garage rock. Ah.
Semblait voilà. Que ça allait plaire à Christian.
Oui. Moi, j'aime bien aussi. Hein.
Ah oui.
Ah ouais, pas que, mais.
Pas que.
Voilà. Jo. Tu nous refais ton cinéma.
Ah bah allez, je vais le faire. Et donc je vais vous parler d'un film américain qui cartonne en ce moment, qui moi me fait penser que le mariage n'est pas forcément une bonne idée. C'est Gone Girl de David Fincher. Donc petite bourgade du Missouri, paisible, à la limite de l'ennui. En cette matinée du 5 juillet 2012, Nick Dunn s'apprête à fêter avec la charmante Amy, sa jolie épouse, ses 5 ans de mariage. Après une balade matinale, de retour dans leur belle et grande maison en banlieue chic, Nick cherche Amy, il ne la trouve pas. Tout semble en ordre, sauf le salon dévasté, chaotique, verre brisé, table basse renversée, bref, des bribes de sang apparaissent ça et là. Où est donc Amy ? Nick s'empresse d'appeler la police. Celle-ci commence à enquêter, la petite communauté locale en émoi apporte vite son soutien. L'ennui quitte alors la bourgade pour laisser poindre une exaltation, une délectation dans le drame. Les médias, les journaux, la télé font alors leur intrusion. Nick, en plus, est maladroit face caméra, n'a pas l'air peiné. Il fait des jolis sourires à côté des portraits de sa belle. Il cache des choses, c'est sûr, il devient alors le suspect idéal. Une chose à dire, quelle maestria du réalisateur David Fincher, quelle maestria dans cette façon de peindre cette Amérique morale et bien-pensante, compatissante, prête à vous soutenir, à vous jeter en pâture l'instant d'après, se délectant de ragots et dont le voyeurisme vient délaisser le monde quotidien. Fincher montre du génie à faire émerger sous le vernis de cette fameuse American Way of Life une hypocrisie révélant la véritable nature des êtres. Car la saleté est là, tapie dans l'ombre, et nous assistons alors à une magnifique mise en abîme de la manipulation. La manipulation des... Le réalisateur nous montre la manipulation dont sont victimes ces personnages et manipule le spectateur par la même occasion. Car la vérité n'est pas aussi simple, et elle n'est surtout pas celle que nous croyons. À travers ce récit machiavélique, David Fincher nous montre une fois de plus, comme à chaque film, qu'il est l'un des plus grands réalisateurs américains et que ce besoin d'apparence est une composante même de la vie en société aux États-Unis. Fasciné par le désordre, l'entropie et la perte de tout contrôle, Fincher signe une superbe parabole sur la perte d'identité, la perte de soi, la perte de repère mettant à mal l'institution américaine parfaite, celle de la famille. Fincher dynamite par la même occasion celle du mariage, notamment à travers les notions d'enfermement et de tromperie que celui-ci implique. Grosse mention spéciale à la bande originale signée Trent Reznor, Atticus Ross, qui travaille avec Fincher pour la 3e fois, partition envoûtante, impressionnante, dont le CD n'existe pas encore en France malheureusement. Et surtout, surtout, comment oublier ce visage, cette Amy, magnifique Rosamund Pike, qui nous hante tout le long du film, sublime, sublime, disparue, mais qu'on devrait revoir très très vite, cela dit, sur les écrans. Donc Gone Girl, David Fincher, magnifique.
Tu dis, Joe, l'American Way of Life. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on pourrait transposer ça aujourd'hui en France.
Ah oui, complètement. C'est la petite la vie sociale, le bon boulot.
Tout est exposé.
L'American Way of Life dans le sens où la petite famille qui habite le petit pavillon en banlieue, à côté de ses voisins, une petite vie tranquille au bord de la mer. Et puis, que les médias viennent dynamiter, pourrir, déranger, je dirais. Mais on dirait finalement.
Et puis l'idée que si le mec ne pleure pas,
une idée de fausseté, en fait. Une idée de fausseté, mais une fausseté en plus qui gangrène même toute cette société-là, parce que c'est une société qui est très ennuyeuse, une communauté qui est ennuyeuse, et on sent que le moindre petit faux pas est interdit, voire discriminatoire, et on sent que. Malgré ça, cette population n'attend que ça, finalement, pour tromper cet ennui, pour tromper, dès qu'arrive justement ce fait divers, c'est l'occasion rêvée.
Alors le mot-clé du film, je crois que c'est surtout le titre du roman d'où est tiré le film.
Exactement, c'est Les Apparences, qui est une très bonne traduction du roman qui est Gone Girl, l'a disparu en fait, qui est le titre initial en anglais que David Fincher a gardé. Les Apparences, c'est un très très bon titre parce que c'est exactement ça. Ce sont les apparences de chacun, les apparences du mari, comme les apparences des voisins, comme les apparences de la femme. Bref, je vous en dis pas plus.
Mon petit doigt m'a laissé entendre que Carole avait vu le film.
Oui, pour une fois que j'ai vu un film que tu chroniques. Oui, j'ai vu le film, que j'ai trouvé très bon. Effectivement, on se laisse prendre par l'histoire et on se laisse promener pendant 2h30 sans aucun problème. C'est l'après-coup qui laisse poindre quelques petites divergences. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de caricatures dans ce film, et c'est juste ce côté-là qui est un peu gênant. C'est-à-dire que David Fincher, effectivement, c'est un grand maître réalisateur, il n'y a pas de problème. Après, sur ce côté-là, j'étais un petit peu déçue sur le fait qu'il joue sur des grosses ficelles, qu'il y ait des petites zones d'ombre que tout le monde peut voir et qui sont complètement balayées d'un revers de main. Donc il y a deux lignes de conduite. Il y a une ligne de conduite, effectivement, sur tout ce qui est voyeurisme, l'étalage médiatique, et une autre ligne de conduite qui est, elle, est complètement négligée, c'est la ligne de conduite plus de l'enquête en elle-même, et du côté de l'intervention du FBI, de la police, ce genre de choses. Ça, on a vraiment l'impression que c'est un petit peu mis au rebut, on va pas faire attention aux détails.
Ouais, peut-être pas quelque chose qui l'intéressait.
Je pense que c'est pas le plus important, finalement.
C'est pas le plus important,
film,
mais quand même, ça, je trouve que ça pose certaines zones d'ombre, et du coup il y a ce côté genre un peu négligé qui fait défaut. Enfin,
parce que moi je trouve que les policiers justement s'enferment dans cette apparence, parce que leur jugement en fait s'enferme sur une apparence, c'est pareil.
Oui, mais c'est un peu tiré par les cheveux sur certaines scènes, où à un moment donné on se dit ouais, il faut quand même pas déconner, c'est gros. Enfin, il y a des grosses ficelles, c'est un peu caricatural sur la fin. Après, ça reste mon avis, même si j'ai trouvé que c'était un très bon film, il y a rien à redire là-dessus. La critique est là. Mais après, nous, on voit aussi, peut-être de nos yeux d'Européens, on n'a pas forcément aussi cette culture du voyeurisme à outrance qu'ont les Américains. Donc, c'est peut-être pour ça aussi.
Ok, merci Carole. Merci Jo. Donc, merci. Le film Gone Girl.
Gone Girl, David Fincher, sorti la semaine dernière, qui est en salle.
Qui a de très bonnes chroniques et critiques.
Critiques, et qui marche très bien en plus. Donc, qui est le plus gros succès de David Fincher pour l'instant.
On va faire une pause musicale avec un album qui est un double album qui vient d'arriver dans la boîte à lettres cette semaine. C'est l'album de Jean-Louis Murat. Hein, si vous êtes fan de l'émission Champ Libre, vous savez que Murat, Nilion, tout ça, ce sont des incontournables de l'émission. Jean-Louis Murat qui joue et qui va tourner avec un groupe de Clermont-Ferrand qui s'appelle The Delano Orchestra. Groupe très très intéressant, donc je vous propose un titre pour ce soir, et j'avertis tout de suite les auditeurs de Champ Libre, le Champ Libre la semaine prochaine sera 50% Jean-Louis Murat, 50% George Harrison, puisqu'il y a, des choses à dire. Aujourd'hui, Blues du Cygne, l'album s'appelle Babel, et c'est Murat et le Delano Orchestra.
En poignée de... passer le temps à aimer par la femme fidèle. Il faut passer le temps à chanter. Pourquoi chanter, maman? Ça, je ne sais.
Jean-Louis Murat, Delano Orchestra, le nouvel album s'appelle Babel, il est sorti hier, et c'était le blues du cygne. Carole, je crois que tu as un album à nous présenter.
Oui, c'est mon album du mois, parce que moi j'en ai un par mois, c'est le Shanro. Donc il est tout droit sorti d'un conte pour enfants, ce géant barbu à l'allure un peu rustre, doté d'une voix caverneuse, nous invite à ouvrir les portes d'un univers enchanteur dans lequel l'inconnu émerveille et stimule l'esprit d'aventure. L'album Mad Men est un passeport universel pour le vaste pays de la folk music avec une extension sur le rythme blues. Shanro est un artiste bienveillant, évoluant entre l'œuvre de Jack Kerouac et Into the Wild. Baroudeur solitaire, il fuit le star system au profit d'une vie de vagabond. Ce quatrième album est taillé dans le bois le plus pur, même si parfois l'électricité fait des étincelles sur certains titres, tels que The Real Thing. L'ensemble de l'album déborde de sincérité et de chaleur humaine. Cet homme ne fait pas semblant, tantôt empreint d'un soul folk agressif ou sentimental, Shanro nous offre ses tripes, son cœur, son art sur chaque titre de ce superbe album. Ce qui séduit dès le premier écoute, c'est sans conteste cette voix graveleuse et unique. Quand bien même certains ont voulu l'assimiler à quelques pointures, le raccourci est trop facile, Shanro a sa propre empreinte vocale. Il vous enlace et vous ensorcelle. Ce timbre rond et chaleureux joue avec les cordes sensibles des contrebasses et guitares folk, nous faisant fantasmer sur les grands espaces nord-américains où les sapins flirtent avec l'horizon. L'album Mad Men s'ouvre sur le titre éponyme dans lequel notre barbu solitaire nous invite à monter avec lui tel un hobo sur ses trains de marchandises à la découverte de l'irrationnel. Amis auditeurs, lâchez prise et laissez-vous transporter par ces routes qui vous entraînent de l'autre côté du monde. Le rhythm and blues de Shine My Diamond Ring déploie un rythme endiablé, laissant place à la soul implacable de Desiree, titre très dansant rappelant vaguement un illustre géant répondant au nom de Barry White. La douceur est de mise, pour preuve The Drive et le très émouvant My Little Man. Les ballades folk se glissent avec subtilité et s'éclipsent à quelques instants pour faire place à des titres tels que Don Calling You, blues crasse et rappeux. Shanro compose une œuvre belle et primitive. Mad Men est intentionnellement simple dans l'arrangement et la composition. Un album soul dans tout le seul sens plus strict du terme, privilégiant les rythmes éponymes, hypnotiques et les guitares chaleureuses. Dans un souci d'authenticité, ce conteur-chanteur va à l'essentiel et nous offre un album généreux et captivant. Donc je vous propose d'écouter le premier extrait de cet album, donc le titre éponyme Mad Men.
You can call me a madman, but I'm spoken for. You can take my positions, leaves me an open door. In the city there's a way just to make you forget about half the stuff you love and things you don't know yet. About the space that's left when nobody talks. About the quiet on the path where nobody walks. Well, the road takes me to the other side of the world. Little walnut tree, replace me. Give my body back to the birds. Oh, oh, oh.
looking for? Should I blame my profession, or should I bless the war?
Mad Men, l'album s'appelle Mad Men.
Mad Men, tout à fait, comme le titre du comme le titre qu'on vient écouter, c'est fabuleux.
Voilà, éponyme donc.
Éponyme.
Voilà, et l'auteur, l'interprète, Sean Rowe. Carole, c'est pas son premier album, ce monsieur.
Sans compter la réédition, ça doit être le quatrième,
ouais.
Si je me trompe pas. Ouais. Parce qu'ils ont réédité le Magic, je crois que c'est le deuxième. Qui n'est pas sorti sous le même.
Shanti.
Ouais, voilà, qui n'est pas sorti sur la même maison de disques, sur le même distributeur.
En tout cas, c'est une sacrée feignasse. Hein. Il n'en a pas fait beaucoup.
Mais
entre
il voyage,
2004
il ne fait pas
2014.
Que ça.
Ouais, j'ai vu que ce mec-là, il participait à des choses telles que 24 jours en solo survival.
Ouais.
Alors, je sais pas
c'est
comment
pour ça qu'il y a un côté Into the Wild, en fait.
Oui, vous savez, ces mecs qui acceptent d'être.
Lâché dans
déposé
la nature.
En pleine nature sauvage, et avec rien. Hein, pas de couteau, pas de zippo, pas de boîte d'allumettes, etc. Puis il faut apprendre à survivre. Ouais, c'est une tozo.
Surtout, il a suivi une formation pour apprendre à détecter les plantes comestibles, justement dans le but de survivre en pleine nature.
Voilà,
donc il y a vraiment une démarche. Épuré, écolo, complètement.
Nicolo
et puis voilà, l'ermite dans toute sa splendeur, il est immense, un placard, il a une barbe gigantesque.
C'est, apparemment, la barbe t'a marqué parce que.
Eh bien oui.
Tu as commencé par
le grand barbier. Mais parce que moi, en fait, dès la première. Oui. J'ai découvert à partir de l'avant-dernier album, et c'est vrai que cette voix m'a beaucoup intriguée. Et il a le physique de sa voix, donc on voit ce côté gigantesque, comme dans les contes pour enfants, pareil, avec une grosse voix, une énorme barbe. Voilà, peut-être que j'ai trop lu de contes pour enfants, c'est possible aussi.
Ouais, tu crois. Puisqu'on parle de la voix et de la grosse voix de M. Sean Rowe, le défaut que pourrait avoir un album qui est entièrement basé sur la voix, c'est qu'au bout de quelques titres.
Oui, c'est d'en faire trop.
On aurait ras-le-bol. Alors que là, ça reste toujours assez juste. Il n'y a pas deux titres qui se ressemblent.
Non,
alors,
il
paraît qu'il présente ça comme un album de blues, alors qu'en fait, on n'entend pas que du blues dans le disque.
Non, il y a beaucoup de soul aussi
ouais,
dedans.
Mais quand on réfléchit bien, effectivement, c'est un album de blues. Mais peut-être que c'est ça. Alors, je vais me faire des ennemis dans les émissions périphériques, mais c'est peut-être ça que pourrait devenir le blues aujourd'hui. c'est-à-dire conserver l'esprit.
Mais à côté de ça, le blues, c'est souvent raconter une histoire. Donc, lui est un conteur. Donc, à travers ce style musical, il raconte des histoires. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a des titres qui sont très intimes, comme My Little Boy, il est magnifique. Et il parle de son fils dans ce titre. Et il y a beaucoup d'intimes. Donc, le blues aussi, c'est ça, c'est raconter...
Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas les clichés.
Non, il n'y a pas les clichés. Et à côté de ça, il n'en fait pas des caisses. Donc, ça reste très accessible. Et c'est un album qui s'écoute et qui se retrouve dans le temps, au-delà de ça.
Alors, je le disais tout à l'heure, j'ai écouté l'album plusieurs fois. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que je l'ai écouté dans le train, 3 fois. Et c'est un album à écouter dans le train.
C'est pas un album de voiture, c'est un album de train.
Hein, voilà. Donc, voilà, écoutez-le dans le train. Prenez le train pour écouter cet album. Oui, j'ai écouté plusieurs fois. La première fois, j'ai eu du mal parce que, justement, il n'y avait que la grosse voix qui...
D'accord.
Voilà. Et puis, petit à petit... Alors, ce qu'il faut, c'est également les textes.
Oui. Il faut pouvoir les...
Et petit à petit, effectivement, on découvre qu'il n'y a pas deux titres identiques. Tout à l'heure, tu parlais de Barry White. Mais il y a des titres Rhythm and Blues. Je crois que tu l'as dit...
Oui.
Hein, il y a des titres qui sont un petit peu plus évidents.
Bah, le deuxième, Shine My Diamond Wings, c'est celui que tu as préféré, Damien ?
Oui, voilà. Assez rhythm and blues.
Voilà,
en fait.
On a vraiment les codes du rhythm and blues. Après vient Desert, qui est très, très rythmé. Et là, on pense à Barry White parce qu'il est très soul. Ensuite, on a vraiment un enchaînement de folk, de ballades douces et de titres un peu plus blues, un peu plus crasse. Mais on reste sur quelque chose de très élégant et d'harmonieux, en fait, au final.
Il paraît que le bonhomme a pris la musique à l'âge de 5 ou 6 ans. Il a composé son premier morceau
à
6 ou 7 ans. Et à 17 ans, il a découvert Otis Redding. Donc, voilà. Ceci explique peut-être cela. Jo, tu l'as écouté, le disque ?
Non, j'ai pas. Non, j'ai dû entendre un ou deux morceaux, ouais. Donc je peux pas vraiment me faire un avis.
Mais toi, t'avais écouté déjà l'album précédent ?
L'album précédent, oui, je l'avais écouté. Ouais. Et celui-ci, non, j'ai pas eu l'occasion, mais effectivement, Madman, d'étonner.
Donc il est un petit peu plus péchu, un peu plus joyeux que ce qu'il avait fait auparavant.
Ça a l'air un peu. Les précédents, Magic,
j'ai pas encore mis la main dessus. Donc moi, je connais juste. Je prends ta fiche, je ne me rappelle plus. The Salesman and the Shark.
And the Shark.
Et Madman. Donc, Salesman and the Shark, c'est un peu plus mélancolique. Il y a quelques titres qui sont un peu plus enlevés, mais Madman, on sent vraiment un second souffle. Il n'y a pas de répétition dans sa discographie. Du moins sur ces deux. Magic, je crois qu'il est très folk. Mm. De ce que j'ai pu en lire, il est vraiment basé sur le folk.
Damien ?
Je l'ai écouté pas vraiment en détail, mais quand même suffisamment. C'est vrai que c'est un album qui me paraît assez intime, mais de mon point de vue, ça reste quand même assez accessible.
Oui.
My Little Boy, en effet, c'est une très très belle ballade.
Mm-hmm.
Et puis, comme Carole l'a évoqué, Shine My Diamond Ring, c'est une chanson que je trouve vraiment très très bien.
Et toi, c'est celle que tu as relevée en priorité. Après, c'est vrai qu'il faut décortiquer les textes pour pouvoir en dire un peu plus. Sur Shine My Diamond Ring, il y a une histoire de laisser aller sur l'apparence. Sur le premier, c'est pareil, il faut laisser... Sur le premier titre, en gros, c'est une invitation justement à passer au-delà de des idées reçues, tout simplement. Donc voilà, il y a toujours un aspect de liberté dans ces textes.
Presque une suite du film.
Voilà, tout à fait. Une suite du film.
Donc, Sean Rowe chante de folk alternatif, on va dire comme ça, américain. L'album
Madman,
ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et je crois qu'il y a un second titre, Carole.
Eh oui, on en a prévu un autre. Alors là, ça a été très long, hein, parce que du coup, j'ai pas réussi à m'en dépêtrer. Je savais pas quoi choisir. Au final, j'ai choisi Dawn Calling You.
can't get your love from the telephone. But lately I've been thinking that I'm better alone.
Don't Calling You, deuxième titre de l'album de Sean Rowe qui nous a été proposé ce soir par Carole. L'album s'appelle Madman. Ça va être à ton tour, Damien, de nous parler ce soir de...
Heavy Metal, voilà.
Heavy Metal. Et on attaque.
Donc on va commencer par une chanson du groupe Judas Priest qui a fait son comeback cet été avec l'album Redeemer of Souls. Mais cet album légendaire du groupe, British Steel, on va écouter la chanson Breaking the Law, la plus connue du groupe, de l'album British Steel, sorti en 1981.
Nobody cares if I
Voilà, c'était la chanson Breaking the Law par Judas Priest. Le heavy metal, donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, l'émission, enfin, la rubrique sera consacrée à la fois au hard rock et au heavy metal, puisque les deux genres sont assez similaires. Bon, pour beaucoup de groupes, on a du mal à faire la nuance. Donc, pour expliquer le heavy metal et le hard rock, il faut remonter en 1968, avec d'un côté l'apparition de la chanson Helter Skelter des Beatles, voilà. Considérée comme la première chanson de hard rock de l'histoire, avec des guitares saturées et puis un jeu de batterie tellement lourd qu'il fera dire à Ringo Starr qu'il avait des ampoules sur les doigts à la fin du morceau. Et en 1968, c'est la fondation de trois groupes pionniers, à savoir Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple. Comme Guy d'ailleurs porte un t-shirt Led Zeppelin aujourd'hui. On sent le fan.
Pour célébrer la rubrique.
Donc les années 70 seront les années de gloire du heavy metal, enfin au moins des trois groupes. Cependant, vers la fin des années 70, ils vont tomber un peu en désuétude. Pour Black Sabbath, Ozzy Osbourne est viré et remplacé par Ronnie James Dio, qui va populariser d'ailleurs le signe des cornes. Mais Black Sabbath sera changé, hein, on n'aura plus jamais...
Signe des cornes, là, les deux doigts, voilà. Ça ne se voit pas trop à la radio, mais... Ouais.
Mais les métalleux sauront de quoi nous parlons.
Tout à fait.
Mais Black Sabbath, après le départ d'Ozzy, ne sera plus jamais le même jusqu'en 2013 et la réunion du groupe originel. Mm-hmm. Sauf pour la batterie, mais bon. Et puis on a aussi Led Zeppelin, le fils du chanteur est décédé, donc le groupe est mis plus ou moins en stand-by. Donc ces deux groupes sont un peu dépassés. Et donc, pendant les années 70, on aura, et au début des années 80, une nouvelle vague de heavy metal, qu'on va appeler la New Wave of British Heavy Metal, puisque c'est les Britanniques qui font le meilleur heavy.
Mm-hmm. Donc, c'est pas américain.
Non, c'est surtout britannique, hein, même s'il y a d'excellents groupes, hein, comme Alice Cooper ou les Guns N' Roses. Mm-hmm. On parlera surtout des groupes anglais.
D'accord.
Donc en 1980, on a la sortie de British Steel de Judas Priest qui va vraiment lancer la carrière du groupe, bien qu'il ait été fondé en 1968 comme les autres. Et donc d'autres groupes comme Iron Maiden ou Motorhead qui vont populariser un nouveau genre de heavy metal, hein. Puis qui sont toujours en activité aujourd'hui, même si pour Motorhead elle est malheureusement les soucis de santé de Lemmy, on peut avoir quelques doutes.
Et que les fans de Motorhead qui nous écoutent pleurent amèrement. Christian nous reconnaître. Se reconnaître, hein, je pense.
Il est mort ?
Pas Christian. Non, mais Lemmy est en très mauvais état depuis...
Oui, oui.
Bon, il y a des concerts de Motorhead qui sont annoncés, mais c'est pas sûr que...
Ouais, c'est comme La tournée des festivals en 2013 avait été annulée. Mm-hmm. Pareil, il y avait eu un concert au Zénith, il me semble, l'hiver dernier, et ça avait été annulé aussi. Hein.
D'accord. Donc, ça, ce sont des groupes qui sont relativement anciens dans la famille du heavy metal.
Ah bien sûr, hein, on va dire que c'est eux les incontournables. Hein. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais quand on parle de heavy metal, c'est les premiers qui viennent à l'esprit.
D'accord.
D'ailleurs, la plupart sont encore en activité aujourd'hui, à part pour Led Zeppelin.
Mm-hmm.
On avait cru que Judas Priest allait partir avec en 2012, il me semble.
Et il est toujours
mais
là.
Ils ont fait un comeback.
Donc le fan de heavy metal d'aujourd'hui, le gars qui a 15 ans et qui écoute du heavy metal, il écoute ce type de groupe.
Ah oui, bien sûr.
Il y a des nouveaux groupes qu'on peut ranger.
Oui, on peut citer par exemple le groupe Rival Sons, qui vont d'ailleurs, il me semble, faire un concert à Lyon cet hiver.
Oui.
Donc, ils reprennent. On sent beaucoup l'influence de Led Zeppelin, hein, sur ce groupe. Pour moi, ça a été l'album que j'ai écouté tout l'été. Donc,
d'accord.
Je citerai que celui-là, parce que ça a été mon gros coup de cœur. Et donc, le heavy metal se distingue par. par une puissance vocale assez impressionnante. Hein, la voix de Rob Halford couvre 7 octaves, c'est le chanteur de Judas Priest. Une culture du riff pour la guitare, donc on peut citer le riff de Hollow Love pour Led Zeppelin, Iron Man pour Black Sabbath et Smoke on the Water pour Deep Purple. Et une section rythmique, à savoir basse-batterie très très lourde. Hein, des morceaux bien représentatifs, on peut citer par exemple N.I.B. de Black Sabbath pour, avec une intro de basse absolument démente. Et le solo de batterie de Moby Dick pour Led Zeppelin. Voilà, et John Bonham qui est un batteur absolument incroyable.
Ouais, j'ai réécouté les titres que tu nous as demandé d'écouter. Oui, j'ai l'impression que tous ces chanteurs auraient pu faire de l'opéra, quoi.
Ah oui, oui, une puissance vocale absolument incroyable. Hein. On peut citer aussi Bruce Dickinson pour Iron Maiden, qui a une voix fabuleuse. Et donc maintenant, on va écouter un morceau du groupe de Ronnie James Dio, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc son album Holy Diver, sorti en 1983, album absolument légendaire. Et donc on va écouter Rainbow in the Dark.
Call the free and I see.
Bah, donc c'était Rainbow in the Dark par Ronnie James Dio. Et ce musicien, Ronnie James Dio, qui était mort en 2013, il me semble. Hein.
Qui est mort?
Grande perte pour le monde du heavy metal.
Ok, Damien, tu reviens le mois prochain. Tu Bien nous sûr. Parles de...
Je vais parler du thrash metal cette fois-ci.
Waouh, on monte en gamme.
Oh. Ah ouais, bah, on a pour un an et demi, à peu près, pour faire le...
On va être incollable après.
Le tour des trucs. Moi, j'ai l'habitude, pour varier un petit peu les plaisirs, de parler de livres.
Par exemple ?
Ou de DVD. Alors, il y a un magnifique coffret François Truffaut qui est sorti
Exclusivité cette FNAC, semaine en ouais, DVD. Ouais, absolument. Ouais.
Intégral FNAC, à prix léger. Voilà. J'avais plusieurs bouquins dont je voulais vous parler. En fait, j'ai parlé d'un seul. C'est un livre de M. Éric Desailles. Chez l'éditeur Le Mot, elle reste. Très bon éditeur qui édite beaucoup de bouquins qui parlent de musique, mais pas uniquement. Plutôt situationniste comme éditeur, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bon, je suis libre en même temps. Ça peut difficilement être autre chose. Ce livre de Éric Desailles s'appelle Kraftwerk. Éric Desailles, c'est un spécialiste du rock allemand ou du rock électronique. Donc, il a écrit des livres sur le groupe Can, sur toute la musique allemande, Cosmische Musik, etc., etc. Donc, le livre de Kraftwerk qui est arrivé il y a quelques jours. Et puis, il y a l'actualité également, Kraftwerk qui dégringole. Alors, c'est quoi l'actualité Kraftwerk? À Paris, du 6 au 14 novembre, je crois que c'est au Palais de la Musique, Kraftwerk va donner une série de concerts qui s'appelle The Catalogue. Et chaque soirée sera consacrée à la reproduction intégrale d'un album en live. Le spectacle de Kraftwerk, ça va être difficile de vous le faire sentir et de vous le montrer en radio, mais c'est un spectacle en 3D avec toute la technologie de pointe qui peut exister aujourd'hui, à savoir la musique dont je vais parler après, mais également des tas d'images et de choses qui sont projetées au-dessus du public, derrière le public, des soucoupes volantes qui frôlent le crâne du spectateur. Je connais une ou deux personnes qui ont assisté au concert des Nuits Sonores, ouais, où il y avait une partie du dispositif, et il paraît que c'était assez impressionnant. Voilà. Alors, parlons un petit peu de Kraftwerk d'abord, et de la musique de Kraftwerk. Je parle d'images, mais le groupe, on ne le voit pas. Enfin, si, ils sont là, mais il y a quatre machines derrière des machines. Kraftwerk, à une époque, a essayé d'ailleurs de... Les musiciens ont essayé de ne plus apparaître sur scène et de se faire remplacer par des robots à leur apparence. Et chose étonnante, lorsque les robots remplaçaient les musiciens et qu'un robot tournait la tête, on avait l'impression qu'il était plus vivant que le musicien qui jouait derrière. Voilà, Kraftwerk a cultivé le contraire de ce que fait tout le rock dont on parle là depuis une heure, à savoir le culte du guitare héros, du super solo, du jeu de scène, etc., pour essayer de disparaître derrière quelque chose qu'il présente comme rétro-futuriste, qui serait le monde vers lequel on va.
Du coup, c'est hyper froid.
Eh ben non, parce que justement, Carole, cette musique-là qui est hyper technique, Kraftwerk arrive à la faire, à faire en sorte qu'elle soit, un, dansante, deux, gaie, et les machines peuvent siffloter des petites mélodies qui vont t'entrer dans le crâne et que tu vas siffloter pendant des jours. Moi, je compare souvent Kraftwerk aux Beach Boys.
Ah oui, mais j'ai jamais aimé les Beach Boys.
Au niveau du style. Merci, Carole.
Après, moi, j'ai toujours du mal parce que j'ai l'impression que les groupes comme Kraftwerk, voilà, l'électro en général, n'a pas d'âme. Donc, c'est pour ça que j'ai...
Oui. Alors, mais je suis pas systématiquement opposé à ce que tu dis. Il y a une partie de la musique électro, effectivement, ou techno, parce que c'est eux qui ont créé ça, l'air de rien, qui peut passer pour froide. En 2008, il y a un magazine web qui s'appelle The Quietus, qui a essayé de donner une définition des origines de la musique moderne aujourd'hui, en essayant de s'émanciper de la biologie, je ne sais pas si on dit comme ça, Bob Dylan, Beatles.
C'est joli, biologie.
Et ils ont, ou trilogie, Bob Dylan, Beatles, Led Zeppelin, et ils ont placé l'année zéro, le curseur zéro de la musique moderne, à la parution en 1974 du quatrième album de Kraftwerk qui s'appelle Autobahn, qu'on a passé, Autoroute, qu'on a passé dans cette émission il n'y a pas si longtemps que ça. Alors à l'époque, la musique électronique, on en entendait. Hein, il y avait un mec qui s'appelait Wendy Carlos qui avait acheté un Moog, un synthétiseur, et qui faisait bip 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 comme ça. Il a fait un tube. Il y a même eu un tube qui s'appelait Popcorn, que vous avez certainement entendu quand vous étiez gamin, de M. Gershon Kingsley, qui a fait un carton. Mais la musique électronique était soit extrêmement sérieuse, Xenakis, Schoenberg, etc., soit quelque chose gadget. Kraftwerk arrive à trouver à quel endroit mettre le curseur entre ces deux musiques. Et lorsque Kraftwerk arrive, eh ben, Robert Plant, Elton John, tous ces gens-là passent pour des gens du millénaire d'avant. Voilà. Donc, Kraftwerk ne sonne comme rien de connu, rien de ce qu'on a pu entendre à la radio. Et paradoxalement, ils vont donc enregistrer des albums qui entrent dans le... Comment on dit ? Dedans ma tête. Et que dont je ne peux plus me débarrasser des choses que vous allez siffloter. Je pense... Si vous connaissez un titre de Kraftwerk qui s'appelle Cometen Melody, alors déjà les titres en allemand, c'est volontairement froid, les musiciens apparaissent en costard cravate, le cheveu court. À l'époque, il y a même des manifs à la sortie des concerts de Kraftwerk parce qu'on est persuadé qu'ils sont nazis. Mmh. D'accord ? Et eux, ils se délectent de cette chose-là, ils veulent prendre le contre-pied. Voilà, donc cette musique, Carole, absolument pas froide. Va être célébré par la fameuse série de concerts à Paris, The Catalogue, et par ce livre d'Éric Desailles, Homo et le reste, qui s'appelle Kraftwerk. Cannes, Kraftwerk, on les range facilement dans une catégorie qu'on appelle krautrock, hawkwind, etc. Mais attention, il y en a qui jouent guitare, basse, batterie. Kraftwerk a créé un style bien particulier qui va donner naissance à la techno, mais pas uniquement à la techno. Les Black Américains, qui font de la soul moderne, revendiquent parfois des samples et des sonorités kraftwerkiennes. Kraftwerk, ça veut dire centrale électrique. Et quoi de mieux pour la musique rock que justement l'électricité ? On va terminer ce champ libre avec un titre de Kraftwerk. C'est un des plus connus. Il s'appelle Radioactivity. Vous allez voir que c'est extrêmement mélodique. Écoutez bien le début. Hein. Tchernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Il pourra également rajouter le Japon.
Fukushima,
etc. Oui. Voilà. À mon avis, ils l'ont rajouté dans le concert de cette année. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Merci Damien pour ta rubrique.
Merci.
Au mois prochain.
Merci Joe.
Merci
Carole. Merci Laurent pour la technique. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Donc, rappelez-vous, Jean-Louis Murat, George Harrison, il y a une intégrale, enfin, coffret Harrison qui arrive. Et on termine l'émission avec Radioactivity, Kraftwerk 1991. Cette version... c'est un disque qui doit dater de 75 dans sa version originale. C'est parti.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Chernobyl.